avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité santé toujours à Dakar et aujourd'hui nous vous proposons d'aller à la rencontre de jeunes, de militants et d'intervenants en santé qui s'engagent pour l'accès aux soins, des acteurs qui s'investissent sur des thématiques qui peuvent se révéler encore tabous pour une partie de la population. Dans un pays où les moins de 20 ans représentent 55% de la population ou 75% de la population à moins de 30 ans, la question de l'accès à la planification familiale constitue un véritable défi. Et l'onde de choc de la crise sanitaire a eu un retentissement, y compris sur cette problématique de la contraception. L'UNFPA, l'agence de l'ONU pour la population, estime en effet que la pandémie a eu des conséquences sur l'accès à ces services de planning familial pour 12 millions de femmes sur la planète. Ces perturbations auraient entraîné pour l'année 2020 1 400 000 grossesses non désirées, une baisse de la fréquentation dans les centres de santé qui a pu freiner les avancées des 8 dernières années. Ou dans un pays comme le Sénégal, eh bien la proportion de femmes ayant recours à la contraception était passée de 16 à 26%. Alors aujourd'hui, pour parler de la santé sexuelle des jeunes, nous allons leur donner la parole pour essayer de comprendre dans quelle mesure leur implication est primordiale, s'informer, s'emparer des questions de santé pour améliorer l'efficacité de la prévention, éviter les grossesses non désirées, lutter contre les infections, prévenir la mortalité maternelle, permettre de mener à bien ses projets personnels, tout simplement. Il est donc question de santé, mais pas seulement, également de respect, d'écoute, de mieux communiquer et de déconstruire certains préjugés. L'implication des jeunes sur les questions de santé sexuelle et de contraception, une émission réalisée en partenariat avec le Fonds français Muskoka, qui a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. Visite au centre de conseil et d'animation pour adolescents de la commune de Fass Koloban Gueltapé, échange avec les animateurs, soignants, avec monsieur le maire et bien sûr les premiers concernés, les jeunes, des supports, des messages adaptés aux populations cibles. Nous entendrons aussi la comédienne influenceuse web Priscilla Dégameuse qui met son franc-parler au service de la lutte contre les tabous. Reportage suivi d'un débat avec des acteurs engagés sur ces questions de santé sexuelle et de contraception. Nos trois invités, docteur Senan Odonou, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
Vous êtes experte santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, région Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'UNFPA. Madame Awadiouf, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
Vous êtes intervenante auprès des jeunes, d'abord à l'espace jeune de l'Université Cherenta à Diop, aujourd'hui au sein de la stratégie équipe mobile de l'ONG Marie Stopes. Et avec nous aussi, Mandiaye Petibadji, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous êtes militant engagé pour ses droits à la santé sexuelle et reproductive et vous êtes venu en compagnie de deux jeunes, Aïcha et Maïmouna. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Priorité santé sur RFI.
Avant de nous intéresser au travail de terrain, je me tourne vers l'experte régionale, vous, docteur Senan Odonou. On perçoit toute la variété des conséquences de la crise sanitaire actuelle, y compris sur notre sujet du jour, la planification familiale. Alors comment, docteur, cette crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle pu un temps faire craindre que les usagers puissent s'éloigner des structures de santé et de planification familiale ? Est-ce que cela, finalement, s'est vu pour l'année 2020 ? On va d'abord commencer, si vous le voulez bien, par la première période, la période qui a été donc celle qui a suivi directement l'annonce de la pandémie.
Il faut dire que cette pandémie a touché un peu partout dans le monde les systèmes de santé. Et les systèmes de santé dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la grande majorité, sont assez faibles et donc moins résilients par rapport à ces pandémies-là. Et donc, effectivement, la crise a frappé de plein fouet les services qui sont offerts dans les structures de santé, y compris donc les services offerts aux jeunes et aux adolescents.
Alors ça, c'était vrai il y a un an. Aujourd'hui, on est fin mars 2021. Est-ce que cette tendance s'est démentie ?
Je vais, permettez-moi de revenir en arrière pour dire qu'on a observé quand même deux phases importantes. La première phase a été de février-mars jusqu'en mai, où on a observé effectivement que le taux d'utilisation des services a diminué. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans certains pays, il y a eu des mesures restrictives de confinement, il y a eu des mesures restrictives où les services de santé n'étaient pas offerts. Il y a eu également, malheureusement, des pays où on a eu des ruptures de stock en tout ce qui est intrants, en tout ce qui est moyen de contraception pour les jeunes. Et donc, tous ces facteurs-là ont fait qu'on a vu une baisse. Mais attention, cette baisse dépend également, il faut la considérer suivant le pays, parce qu'il y a des pays, heureusement, qui ont eu plutôt une flambée. Donc, l'observation n'est pas, de façon générale, ça a diminué, mais quand vous prenez un pays, par exemple, comme le Sénégal où nous sommes, ou le Cameroun, ou le Ghana, l'UNFPA a fait une étude où on s'est rendu compte qu'effectivement, les services spécifiques à la planification familiale, par exemple, l'utilisation de ces services-là, ça a augmenté durant cette première période, contrairement à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, où pendant cette première phase, les services, l'utilisation des services a diminué.
Awa Diouf, travailler auprès des étudiants, puis aller directement à la rencontre des jeunes, on peut imaginer toute la difficulté de ce travail de sensibilisation. La santé sexuelle, on va dire, à qui revient l'initiative ? Est-ce que c'est une démarche qui est de vous, de votre organisation, ou finalement les jeunes savent que vous êtes là et donc ils viennent s'adresser à vous ?
Merci pour l'invitation. Comme vous le dites, au niveau du centre, il y avait un besoin qui était là, parce que l'université Cheikh Anta Diop détient déjà un service médical. Mais Maristops est venu renforcer, nous aider surtout à atteindre cette cible jeune. Parce que nous savons que l'université compte plus de 80 000 étudiants, mais que 12 à 20% simplement logent dans le campus. Donc, Maristops a mis en place un volet qu'on appelle création de la demande, qui nous a permis non seulement d'atteindre les jeunes qui sont dans le campus, mais aussi en dehors du campus. Parce que, étant coordonnatrice d'espace jeune, donc, j'avais un AMS, c'est-à-dire un agent marketing, qui m'aidait dans un volet très important qu'on appelle création de la demande. Et cette création de la demande englobait beaucoup d'activités ludiques, comme par exemple des sabars qui nous permettaient de regrouper des jeunes. Sabars, c'est-à-dire des tam-tam que les Sénégalais aiment trop bien, ou bien des concerts, des matchs de football qu'on organisait au sein de l'université. Et aussi pendant les vacances, il y avait ce qu'on appelle le school tour. Le school tour, c'est-à-dire on se déplaçait dans les écoles, dans les universités privées, dans les lycées, pour faire la sensibilisation. Et aussi, pendant les vacances, il y avait ce qu'on appelle le summer tour. Le summer tour, c'est aussi, on fréquentait carrément les zones de festivités, c'est-à-dire les plages. Ça nous permettait de faire vraiment la sensibilisation aux jeunes et aussi en profiter surtout pour faire le référencement vers les centres.
Alors, vous disiez les moyens de planification adaptés. Si justement on s'arrête à Awa Diouf, vous connaissez cette population de très près, à ce qui est le plus demandé par les jeunes. Aujourd'hui, si un jeune décide d'avoir une contraception parce qu'il est devenu sexuellement actif, c'est une réalité pour une partie d'entre eux, eh bien, c'est quoi le moyen qu'il demande le plus fréquemment ? Est-ce que c'est le préservatif ? Est-ce que c'est autre chose ?
Toutes les méthodes, franchement.
C'est vrai, il n'y a pas, par exemple, on va dire 30% qui utilisent le préservatif, 20% qui utilisent
les préservatifs,
l'implant, 10% la pilule contraceptive.
Maintenant même, je vous dis qu'il y a plus de longues méthodes que de courtes méthodes.
Donc des implants
davantage. Des implants ou bien le dispositif intra-utérin,
le stérile. Oui. Alors là, on est des adultes, on en parle entre nous, je me tourne vers les jeunes. Parler de santé sexuelle et reproductive, même des fois, on a l'impression que par pudeur, les adultes emploient le terme SSR, comme ça, on ne sait pas trop de quoi on parle, parce que c'est tabou. Malgré tout, parler de sexualité, de contraception à la radio, Aïcha, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ?
C'est vrai que c'est très compliqué de parler de la sexualité dans notre communauté. Étant une jeune fille, dès que tu prends l'initiative de dire que je vais essayer d'imprégner ou bien d'informer mes pères, c'est très difficile. Parce que quand tu informes une personne, on dit d'ailleurs toi-même tu es une mauvaise personne. Je vois mes camarades jeunes, ils ont besoin de l'information. Ils n'ont pas l'information qu'il faut.
Aïcha, vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
23 ans. Et vous, Maïmouna?
J'ai 26 ans.
26 ans, justement, il y a l'engagement parfois derrière des commentaires quand on se met à parler de sexualité. Est-ce qu'il faut finalement oublier tout ce que les autres peuvent dire ou penser de vous?
Effectivement, le monde évolue. Il faut en parler pour que les jeunes sachent exactement c'est quoi la sexualité et quelles sont les choses à faire et les choses à éviter, quoi.
Comprendre justement cet engagement personnel, ça commence jeune. Petit Badji, vous, ça fait près de 15 ans déjà, vous étiez jeune au début, vous l'êtes un petit peu moins aujourd'hui, vous êtes engagé sur ces questions de santé sexuelle et reproductive. Mais justement, quand on a une vingtaine d'années, qu'on est étudiant, pourquoi est-ce qu'on adhère à une association pour le bien-être familial?
Vous pouvez m'appeler Joe, parce que c'est comme ça que tous les jeunes m'appellent. C'est vrai que je suis vieux jeu maintenant, mais appelez-moi Joe. Mon militantisme est parti de problèmes réels de la famille, parce qu'il n'y avait pas d'informations dans ma propre famille, et tout le monde tombait enceinte. Et mon oncle avait d'énormes difficultés pour régler le problème. Et moi, étant étudiant, j'ai dit, OK, il faut que je trouve la solution, parce que ce n'est pas normal. Quand elles arrivent pour des vacances et qu'elles ont leur petit boulot, et quand elles rentrent au village, on appelle mon oncle pour lui dire que toutes les filles qui étaient là sont tombées enceintes. Et c'est pour cela que moi, je me suis dit, il faut trouver une solution par rapport à ça.
Mais comment la famille a réagi? Parce qu'on peut vous considérer un peu comme quelqu'un d'intrusif qui va un peu se mêler des affaires des autres, non?
Au début, ils m'ont considéré comme le vrai kamikaze avec ses condoms. Parce que j'avais une boîte de condoms que j'avais...
De préservatifs.
De préservatifs, exactement. Donc, j'avais des préservatifs que je posais sur la télé. Donc, tous étaient au courant que ça, c'est un paquet de condoms. Alors, à qui ça doit servir? Aux gens qui ont des relations sexuelles avec mes cousines dans la maison. Mais au préalable, j'ai expliqué à mon oncle que c'était ma seule solution. Et pour lui également, qui était vraiment exaspéré par le problème, tout le temps les filles tombaient enceintes, il m'a donné son feu vert.
Donc, c'était utile?
Très utile.
On va vous retrouver tous les cinq, puisque on va partir à présent pour cette commune de Fas pour comprendre comment les usagers parlent de leur santé, de leurs amours et aussi de la contraception. Vous étiez tout à l'heure avec nous en studio. On vous retrouve maintenant devant ce bâtiment, ce centre. C'est quoi le nom exact de ce bâtiment?
C'est la mairie de Fas, Gueltape Koloban. Mais on a l'habitude d'appeler Fas.
Et à côté de nous, on a aussi l'adjoint à monsieur le maire. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Michel Alioune Cissé, troisième adjoint au maire de la commune Gueltape Fas Koloban.
Alors messieurs, vous allez être mes guides, hein. On va franchir cette porte, ce portail, et on va rentrer à l'intérieur du bâtiment qui est encore en construction. Il manque une petite couche de peinture à l'extérieur, mais déjà les travaux sont très très bien avancés à l'intérieur. On y va, je vous suis, je vous en prie. Donc on rentre dans une cour, là le silence se fait parce qu'il y a beaucoup moins d'agitation qu'à l'extérieur. Il y a des grands arbres au milieu de la cour, il y a deux étages distribués autour. On va monter les escaliers et vous allez nous expliquer qu'en fait, dans chaque pièce, hein, c'est un peu ça, dans chaque pièce, il y a, Joe, une fonction, une mission destinée à la jeunesse.
Tout à fait. Au-delà du bâtiment administratif, il y a les jeunes qui sont à côté, l'espace ado, et nous allons tout à l'heure monter, vous allez voir le guichet unique. Et je pense que le maire qui est là, il pourra expliquer comment ça va se passer dans les guichets uniques, parce que c'est plusieurs chambres où les chambres, on va prendre en compte la problématique de la population dans chaque bâtiment.
On va continuer si vous voulez bien la visite. Je vous suis. Merci. Allez-y.
Là, nous montons vers l'escalier qui va nous mener.
D'accord, on est encore en travaux, ça veut dire que bientôt ici, il y aura des bureaux et il y aura la possibilité d'accueillir les jeunes quand ils auront des questions concrètes à vous poser. On va voir donc ce qui se cache derrière ces portes dans ces différentes pièces.
Oui, donc nous avons plusieurs pièces, indépendamment de ce guichet unique, un dispositif qui va permettre aux jeunes et tous ceux qui veulent un projet, donc ils peuvent s'approcher, il y aura quelqu'un. Des gens qui sont formés spécifiquement pour pouvoir les aider à monter leur projet.
Nous sommes redescendus au rez-de-chaussée. Devant une pièce ouverte, je vous rencontre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, moi c'est Babacar Sen, membre permanent du bureau Conseil Ado.
Conseil Ado, on va franchir la porte, on va s'installer. Vous allez m'expliquer ce que vous faites exactement dans ces locaux.
c'est là que nous accompagnons les jeunes. C'est un espace d'écoute et d'accompagnement de proximité au service des jeunes pour les aider à résoudre des problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive.
Excusez-moi, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 24 ans.
Comment, à 24 ans, on décide d'accueillir des jeunes et de leur parler de questions aussi compliquées, aussi taboues que la santé sexuelle ?
Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Après avoir bénéficié de nombreuses formations, on se rend compte que ce n'est pas difficile de parler de ça. Entre nous, on se comprend. Ici, les activités se limitent à des activités d'information, d'éducation et de communication. Pour ce qui est de la prise en charge, on vous formule des notes, on vous redirige vers la supérieure hiérarchique, c'est elle qui s'en charge.
Et si un jeune arrive avec un problème de santé ?
Dans ce cas-là, on ne va pas l'orienter. On est capable, ici, les relais, il y a 2 membres permanents qui ont été formés sur ça. On est capable de gérer ce problème.
Et à quel moment on adresse les jeunes à l'infirmière ?
S'il s'agit d'infections ou des problèmes qui dépassent l'information et l'éducation.
Et là, vous dites, ça dépasse mes compétences, on vous adresse à l'infirmière.
Oui, exactement, ça se passe comme ça.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Jenaba Kamara, madame Bojan, sage-femme.
Vos consultations, elles se passent où et elles se passent dans quelles conditions ?
Des conditions dans la plus grande discrétion, parce que les jeunes, quand ils viennent pour une consultation, d'abord, c'est par souci de confidentialité qu'on les met en sécurité. Quand elles tombent en grossesse et qu'elles ne veulent pas que les parents sachent, elles viennent se confier. Il y a aussi des infections, surtout les jeunes, les plus jeunes, elles ne parviennent pas à découvrir leur corps. Maintenant, c'est au cours des rapports sexuels qu'elles découvrent leur corps et ça pose énormément de problèmes.
Vous dites au féminin, elle et il. Ils viennent aussi vous voir, les garçons, parce que la sexualité et la santé sexuelle, ce n'est pas qu'une question féminine. Il faut aussi que les garçons s'emparent de la question, c'est essentiel. Ils viennent vous voir, eux aussi.
Oui, ils viennent, mais en général, on reçoit beaucoup plus les jeunes filles, parce qu'en tant que sage-femme, on consulte beaucoup plus les jeunes filles. Mais les garçons aussi, ils viennent poser le problème, peut-être avec leur partenaire. Tout ce qu'on se dit dans le bureau, ça reste dans le bureau. Donc nous, agents de santé, on doit être là pour jouer au second moment, au second jouet, au second rôle. Essayer toujours de les canaliser, de les mettre sur la bonne voie.
C'est un gros travail.
Gros, très gros même.
Merci. Donc là, on approche du cabinet du maire. Hein?
Voilà, c'est le bureau du maire.
D'accord.
Voilà, qui est là. Donc on va voir le maire de face, Gultape Koloba. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, voilà le maire des jeunes, le jeune maire. C'est comme ça qu'on l'appelle très sympathiquement.
Et bonjour.
C'est une personne très proche de la
jeune.
Bonjour.
Ça va ?
Je suis Caroline Paré.
Bonjour Caroline. Pourquoi vous protégez et lui se protège pas ?
Ah bah lui, c'est l'inconscience de la jeunesse.
Bah, il va falloir le dire aussi, non ?
Bah, je peux pas non plus disputer les gens qui m'accueillent.
Bon, alors là, franchement. Ça va, tout va bien ?
Oui, très bien.
Bienvenue, comment ça va toi ?
Très bien.
Tu vas bien, combat ? Très bien. Vous pouvez y aller, hein, il y a de la place. Allez-y.
Monsieur le maire,
oui.
On vous surnomme donc le maire de la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ils m'ont trouvé cette étiquette, peut-être que je fais beaucoup pour les jeunes. J'aime les jeunes, je suis encore jeune, je n'ai que 18 ans, vous voyez ?
Oui.
Voilà, je suis encore très jeune.
Vous cachez bien votre jeu. Alors justement, cette préoccupation derrière le sourire, il y a une vraie réalité sociale, il y a de vrais besoins. Et aujourd'hui, en un seul lieu, on essaye de répondre à ces attentes multiples. Comment être jeune, comment être heureux et ne pas se mettre en danger pour sa santé ? C'est quand même quelque chose de spécial.
Alors, je n'ai aucune surprise parce que moi, c'est mon quartier. J'ai fait toutes mes leçons ici, j'ai tout appris ici. Donc, je sais exactement ce que vivent ces enfants ici. Et moi, mon combat, c'est d'aider ces enfants à sortir de ce trou. Je veux sauver ma jeunesse. Je voudrais, moi, convertir cette force de cette jeunesse. Au lieu que ce soit une force qui jette des pierres, que ce soit une force positive. Il faut les accompagner pour qu'ils se développent, pour qu'ils développent la commune. Et je suis persuadé que le développement de ces pays passe forcément par le développement de la base et l'arme, l'outil principal, c'est la force de la jeunesse. Il faut qu'on s'occupe de leur santé, il faut qu'on s'occupe de leur éducation, il faut qu'on s'occupe de leur formation, il faut qu'on s'occupe à leur trouver du travail. Pour moi, l'idée principale, l'axe principal de ce projet, c'est les jeunes et les femmes.
Qu'est-ce qui vous montrera que tout ça, ça marche ?
Quand je vais sortir et je vais voir les jeunes avec un autre état d'esprit, premier objectif. Si je les vois avec un autre état d'esprit, je me dirai quelque chose est en train de se faire. Après, on verra sur les résultats sur le terrain. Est-ce que les jeunes sont bien formés? Est-ce que on a créé des centres de santé? Est-ce que les femmes se sont appropriées?
Parce qu'on a fait beaucoup de promesses à la jeunesse, beaucoup de promesses.
Je n'ai pas encore fait. Moi, les promesses que je fais, c'est face émergent. Je suis en train de poser les pierres et c'est visible. Je suis capable de le défendre. Maintenant, chacun a sa stratégie. Moi, en tout cas, je ne promets pas. Je mets le doigt sur l'affaire et puis tout le monde voit. Et vous avez vu vous-même, non?
J'ai vu.
Voilà. Eh bien, voilà.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de retourner à Fas pour donner la parole à ses usagers, étudiants, lycéens, nous allons nous arrêter sur ce projet pilote. Un lieu, une approche, en fonction bien sûr des spécificités locales. Et on donne la parole au directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population, hein, l'UNFPA, pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est vous, Mabin Guengom, bonjour.
Bonjour.
Un entretien téléphonique parce que vous êtes actuellement à l'étranger, Mabingué. Des initiatives de terrain directement développées avec les acteurs locaux. Pour ça, bien sûr, c'est très important de comprendre les besoins des populations, en particulier comprendre les besoins de cette jeunesse. Vous êtes allé sur cette commune de Fas où il y avait vraiment une forte demande de la part de la jeunesse. Est-ce qu'avant vous, eh bien, les populations avaient l'impression que leurs attentes étaient vraiment prises en compte?
Je dirais que les initiatives que nous sommes en train de déployer à Fas constituent quand même une réponse à la demande des populations elles-mêmes dans chacun des domaines. Donc Fas est une approche innovante et il rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de la feuille de route de l'Union africaine pour la capture du dividende démographique.
Investir dans les jeunes, on le comprend, c'est essentiel, hein. 55% de la population au Sénégal a moins de 20 ans, 40% des jeunes au chômage ou sans emploi. Alors bien sûr, là, on travaille sur plusieurs piliers, l'information, la santé, bien sûr, le travail, avec des jeunes qui s'impliquent, qui s'investissent. Ça rend tout ça beaucoup plus efficace.
Mais tout à fait. J'ai fait tout à l'heure allusion à la feuille de route de l'Union africaine. Elle entend investir dans l'éducation, dans la santé, dans la formation, la création d'emplois productifs. Et c'est ça un peu l'esprit de Fas, j'allais dire.
Alors l'esprit de Fas, c'est aussi de recenser les effets positifs. On note les résultats. Et puis à terme, cela veut dire aussi, Mabin Guengom, que l'on peut reproduire ce modèle.
Oui, Fas est un incubateur qu'il fallait tester dans une commune qui a un potentiel, mais l'idée, c'est vraiment de reproduire le modèle de Fas dans les 557 communes du Sénégal, mais également dans les communes des autres pays de la sous-région, qui peut permettre un peu de répondre aux besoins les plus pressants des populations, besoins lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, font l'objet en tout cas de frustration, de désespoir qui peuvent créer des difficultés majeures.
Et on comprend bien que c'est un certain nombre de ces attentes sont vraiment légitimes. On vous remercie beaucoup, Mabin Guengom, pour toutes ces explications. Et on repart pour Fas, donner la parole à d'autres jeunes juste après ce titre. Djeba sur RFI avec Gouy. Dina face khalbi no no elma sababi yeah and don't so amati principe ma fuing lep mon against him obsic you look like that do you rekya ko kham do lo nit ma do you fing me up the family must ma fadem why do lo nit ma do ma to pose gina di do meli bagelo khale khale Joy, but this is your name, like it's the young one. Priorité Santé sur RFI et nous sommes donc comme promis de retour dans ce centre de conseil et d'animation pour adolescents de FAS pour passer en quelque sorte de la théorie à la pratique en ouvrant le micro aux premiers intéressés, échanger avec des jeunes usagers qui s'emparent des diverses questions qui concernent leur avenir. Et quand on veut faire des études, quand on a des projets, la question de l'accès à la santé, c'est très important pour qu'une histoire d'amour ou qu'un coup de cœur ne vienne pas tout changer, tout bouleverser, tout remettre en question. Communiquer sur toutes les questions de santé, c'est essentiel, y compris sur la sexualité et la contraception. Alors, je vais vous dire un bonjour général. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, pour commencer, petite présentation, s'il vous plaît. D'abord, vous, mademoiselle.
Bonjour, moi, je m'appelle Fatoumata et j'ai 20 ans.
Bonjour, moi, c'est Koumbanye. J'ai 30 ans. J'habite à la Gueltapé.
Bonjour, c'est Ndiagassam, étudiant à la faculté de droit à l'université Cheikh Diop. J'habite à Colobane, à la rue 14.
Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Marela Sane, j'habite au Jelsem Fass et j'ai 20 ans.
Question très simple à chacun, chacune d'entre vous. Je commence avec vous, Koumba. Alors, parmi les jeunes qu'on a ici autour de cette table, vous êtes celle qui a le plus d'expérience. Oui. Vous avez 30 ans, vous avez un parcours de vie déjà derrière vous. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici?
Via mes expériences, je me suis mariée tôt et ce n'était pas de mon propre gré. Tout le temps, on a vu des jeunes qui veulent se marier tôt, mais tu leur parles, tu leur dis que ce n'est pas la bonne décision, il faut attendre, il faut patienter, il faut étudier d'abord pour voir.
Vous aviez quel âge quand vous êtes mariée?
16 ans.
Aujourd'hui, c'est une expérience, vous avez eu des enfants, vous avez votre vie. Comment est-ce que vous regardez ça? Vous auriez aimé avoir le choix?
Oui, oui. Parce que j'étais partie à Kolda pour étudier. Je voulais terminer là-bas mon cursus scolaire, avoir mon bac et revenir à Dakar. Mais
la famille a décidé autrement pour vous.
Oui.
Vous, Fatoumata, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici dans ce centre?
Bon, je suis venue pour me renseigner parce que je me dis que les études, ça ne suffit pas. Qu'il faut toujours apprendre.
Apprendre quoi?
Pour apprendre les choses qu'on avait peur de parler avec nos parents.
Alors, c'est vraiment une question qui est essentielle dans le contexte en Afrique de l'Ouest, de pouvoir choisir sa vie. Niaga, pourquoi est-ce que vous êtes là ici aujourd'hui?
Je suis là pour partager mon expérience que j'ai eue à travers une formation que j'ai subie ici. C'est le bureau conseil ado, on nous a formés. Nous étions au nombre de 15 et maintenant, voilà, certains sont là. On est là pour parler parce qu'on a eu un peu d'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de garçons de notre quartier qui ne veulent pas parler de la sexualité avec leurs parents. Parce que de notre culture, c'est un sujet extrêmement bon, complexe, je pouvais le dire ainsi.
Il faut du courage, justement, pour s'impliquer pour les jeunes et la sexualité.
Effectivement, il faut beaucoup de courage.
Est-ce que vous trouvez que les garçons veulent aller trop vite?
C'est naturel pour moi, parce que voilà, on est des enfants, on n'est plus des enfants, c'est comme ça. C'est un stade qu'on passe, vous avez un parcours. Quand ça vient, c'est naturel pour moi. Et à travers l'expérience que j'ai acquise, auparavant, j'avais un jugement par rapport à aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand je voyais une fille enceinte, je me demandais qu'est-ce qu'elle a fait, etc., etc. Parce que c'était de notre culture. Mais après quelques années, je me suis dit que c'était pas de leur faute. J'avais pas le droit de les juger. C'était des situations difficiles. Peut-être qu'elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Elle s'était emportée par l'amour, etc., etc.
On parle d'amour, on parle de santé. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un extrait d'une mini-série d'infos santé, justement pour lutter contre les tabous. En parlant, par exemple, vous parliez tout à l'heure à l'instant, Niaga, de ce que l'on ne sait pas, justement, ce que l'on doit apprendre, y compris quand on est une jeune fille, mais aussi un jeune homme. Parlez par exemple d'hygiène menstruelle sans détour. C'est le programme Soyons Réglo qui a été développé par l'UNICEF, à retrouver sur les réseaux Facebook par exemple. Un petit extrait avec la parole à une femme qui ne mâche pas ses mots. Prissy, bonjour.
Bonjour.
Alors Prissy, nous vous avons jointe à Abidjan. Prissy, la dégameuse, ça veut dire quoi?
Alors la dégameuse, c'est celle-là qui dit « Oh, ce que tout le monde pense bas ». Et qui un peu ramène les choses à l'ordre, mais avec sa touche d'humour.
Alors, vous dérangez, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup aussi de bienveillance, on va le voir. Comédienne, chroniqueuse, influenceuse web. Combien d'abonnés sur Instagram?
Oula, on va dire quoi? Plus de 400 000 abonnés.
Ben bravo. Quand on vous présente pour viser juste, c'est quoi ce qui compte pour vous le plus? Les mots, le mouvement, la danse, les vannes ou Internet?
Alors, tout.
Tout.
Ouais, tout est une opportunité pour moi. Tant que c'est pour m'exprimer, Je suis toute, oui, je dirais tout.
Tout. Alors, on vous retrouve d'ailleurs en tant que comédienne dans la série Soyons réglo, une mini-série des sketchs où on vous retrouve à la fois pédagogue, bienveillante, ferme aussi quand il le faut. On va entendre un petit extrait, vous interpréter dans une pharmacie, une cliente qui va là encore droit au but, hein, on va dire, vous dégamer, hein, j'ose, droit au but pour lutter contre les tabous et les jugements.
Madame, c'est à vous.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Excusez-moi, je pourrais avoir un paquet de serviettes hygiéniques, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Oh, malpropre comme ça. Oh.
Pardon monsieur, il y a un problème?
Moi, il n'y a pas de souci. Apparemment, c'est vous le souci.
Prendre soin de son hygiène en tant que femme, ça vous choque? J'achète ce qui est nécessaire, considérant la façon dont Dieu m'a créé. C'est un problème?
Non, ça ne me choque pas. Mais ici, la décence impose la discrétion, ma chérie.
Vous avez parlé de discrétion.
Mais oui.
Est-ce que vous savez qu'il y a une ligne de confidentialité derrière? Vous êtes devant, j'ai dit derrière. Reculez là-bas. Et ça parle de discrétion.
C'est à vous?
Pardon. Donnez-moi un paquet de préservatifs. Un paquet de préservatifs. Un gros paquet de capotes. Merci. Après mes règles, je compte reprendre ma vie de femme qui s'assume et qui prend soin d'elle. Ça m'en déplaise à certains.
Hey, faut pas me blesser, hein, t'as compris? Il me faudrait des suppositoires et de la crème contre les hémorroïdes.
L'humour, ça permet de frapper fort. Priscille, lutter contre les tabous, contre les préjugés, c'est votre carburant?
Exactement.
Et on peut être danseuse, comédienne, chanter et en même temps faire passer des messages de prévention très sérieux.
Tout à fait. Nous faisons un métier pour faire rire, mais on ne rit pas quand on travaille, en fait. C'est cela. Et donc, nous sommes dans une société où les gens ont tout le temps des problèmes, c'est difficile à tous les niveaux. Les gens n'ont pas forcément envie de... Enfin, même quand ils ont envie de déstresser, quand ils ont envie de rire, ils n'en ont pas forcément les moyens, ils ne sont pas dans les conditions. Moi, j'utilise cette stratégie-là pour justement faire passer des messages sans être... celle-là qui pourra te faire sentir à l'école ou qui pourra te faire sentir comme un enfant qui est en train de se faire gronder par sa maman. Non, il faut le faire de façon subtile. Donc la subtilité, c'est l'humour que j'y ajoute.
Alors Internet, les réseaux sociaux, est-ce que pour vous c'est un bon moyen, un bon vecteur pour la sensibilisation, bien sûr pour les plus jeunes?
Exactement, parce qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, au temps de nos parents, on n'avait pas Internet. Il y a d'autres moyens de sensibilisation. Aujourd'hui, on a Internet. Bien que certains veulent nous faire croire qu'aujourd'hui, avec Internet, ben avec tout ce qu'on voit de négatif, là, beaucoup ça donne à la perversité. Beaucoup utilisent Internet pour faire tout et n'importe quoi. Et bien justement, nous, on a envie d'être ces personnes-là qui veulent montrer ou qui montrent à la future génération que non, Internet a ses avantages, a beaucoup même plus d'avantages que d'inconvénients.
Alors, vous touchez un public assez jeune. La question, c'est aussi de faire passer des messages aux parents. Comment on fait et qu'est-ce qu'ils en pensent?
Quand tu passes un message, d'abord, tu t'intéresses à la cible et tu essaies de te mettre dans la peau. Parce que tu ne peux pas juger quelqu'un si tu n'as pas fréquenté, si tu n'as pas étudié, si tu ne connais pas son domaine. Et justement, tu ne peux pas porter une pièce casquette et vouloir, vouloir donner des messages ou faire la morale à quelqu'un qui n'est pas de ton registre. Et donc, le travail, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de ces enfants-là, leur dire qu'on est parents, mais avant d'être parents, on a été aussi enfants. J'ai été confrontée à beaucoup de moqueries, j'ai été confrontée à un manque de communication, que ce soit au niveau de mes parents ou de mes amis ou de mon entourage en général. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là. J'ai peur ou j'ai pas envie du tout que mon enfant ou ma petite sœur de demain se retrouve à ça aujourd'hui, se retrouve à vivre ça, alors qu'on a des canaux, justement, qui nous permettent de pouvoir éviter ça.
Et l'humour, ça permet aussi, ça, de faire de mauvaises expériences une véritable force. On vous remercie beaucoup. On va voir tout de suite ce qu'en pensent les premiers intéressés. En reprenant notre échange ici au centre Conseil Ado de Fas, peut-être ce sujet de l'hygiène menstruelle. Si je me tourne vers Fatoumata, 20 ans aujourd'hui, la première fois que vous avez entendu parler des règles, vous aviez quel âge?
La première fois, c'était en 2013.
Est-ce que vous y étiez à ce moment-là directement confronté ou votre maman, ou vous, une grande sœur ou une cousine, vous en a parlé avant?
C'était la petite sœur à mon père. C'est la seule femme à cet âge qui me parlait de ça.
Ça veut dire que votre mère ne vous en a pas parlé?
Non.
Et vous, Kumba, quand est-ce que vous avez appris que les règles, ça existait?
Lorsque j'avais 12 ans, on parlait, on discutait parce que comme on faisait des groupes, il y avait une grande qui avait déjà vu et on discutait et elle nous expliquait comment ça s'est passé, comment elle a vu ça.
C'était votre curiosité, en fait. Il n'y a pas eu la démarche d'une maman ou d'une tante qui est venue vous expliquer, les filles, non. Voilà ce qui va se passer.
Non.
Niaga, vous avez su quand que ça existait, les règles?
Je l'ai appris à l'école. Bon, c'était la première fois que je l'ai vu. Je pense que j'étais en quatrième. Puisque je l'ai appris, même il y en a des filles qui viennent nous parler. Bon, pour moi, tout est naturel, en fait.
Et vous, Abdoulaye, en parlez, est-ce que c'est quelque chose qui pose problème ou ça, on en parle comme quelque chose de tout à fait normal?
Non, comme Diago vous l'a dit, moi aussi je l'ai appris en quatrième, en cours d'économie familiale et sociale. Et à la maison aussi, j'ai des petites sœurs, c'est naturel comme tout.
Quand on parle de santé sexuelle, petit tour de table à nouveau, Fatoumata, si on disait santé sexuelle, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est de parler des grossesses? Est-ce que c'est de parler des infections sexuellement transmissibles? Est-ce que c'est peut-être aussi de parler des violences faites aux femmes ou du consentement? C'est quoi pour vous la question clé? Chacun, chacune, je vais vous poser ces questions. Pour vous, Fatoumata?
Je pense qu'il faut parler en global parce que nous sommes tous des humains. Et il y a des filles qui n'ont jamais fait de rapport sexuel et qui ont des infections. Les infections, ça ne prévient pas.
Pour vous, Kumba, la santé sexuelle, c'est quoi?
Oui, pour moi aussi, c'est la même chose. C'est d'une façon globale. Il y a aussi des violences basées sur le genre. Il y a aussi des grossesses indésirées. C'est global.
Niaga, pour vous?
Moi, je prendrais la violence faite aux jeunes femmes parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que, voilà, les femmes sont naturellement vulnérables, tu vois. Et maintenant, on voit que les parents n'acceptent pas cela. Et pourtant, c'est pas de la faute des jeunes filles, mais c'est plutôt, par exemple, des personnes les plus âgées. Parfois, les jeunes filles font face, par exemple, à des tontons, à des papas, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire?
Absolument.
Et ces violences, ça vient de là-bas. Et pourtant, les parents rejettent tout simplement la faute sur la jeune fille en disant que tu t'habilles pas correctement, la manière dont vous habillez, vous êtes un peu charmante, attirante, alors que c'est pas ça. Je disais que bon, au Sénégal, ici, la jeune fille, quand elle est enceinte, on dit que voilà, tu savais, tu étais consciente, etc., etc. On se rend même pas compte de l'âge qu'elle a. C'est pas important ici. C'est pour cela que voilà, les jeunes filles ont eu beaucoup de difficultés à survivre avec ça.
Abdoulaye aussi, vous, pour vous, la santé sexuelle?
Moi, je vais parler de la grossesse précoce. Je peux dire, ici au Sénégal, c'est dû à la curiosité. Parce que certaines jeunes filles pensent que si une de leurs amies le fait, ils seront curieux de le faire tout de suite.
Vous dire de faire l'amour?
De faire l'amour, oui.
En même temps, la curiosité, peut-être le manque d'information aussi. Est-ce que c'est possible d'en parler aux parents, Fatoumata?
C'est difficile de parler aux parents. C'est pour cela qu'on demande aux badjans, les marraines de quartier, pour accompagner les jeunes. On se dit que discussion entre grands et grands, c'est plus courant que grands et enfants.
Niaga, comment ils ont réagi vos parents quand vous avez dit « Moi, je vais aller parler de la sexualité aux jeunes ». Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Malheureusement, Dieu m'a donné des parents archaïques, c'est-à-dire, eux, ils ne connaissent pas cela. Quand je parle de ça, ils me disent « Non, toi, arrête, c'est pas important, donc moi, je prends des risques ». Parce que ça, c'est une source de motivation pour moi, parce que moi, je suis dans le quartier et je vois des situations, par exemple, des jeunes filles qui s'ouvrent, alors que je me dis « Bon, ça pourrait être mes sœurs ».
Comment ça se passe au niveau de la mixité, Abdoulaye? On en discute les garçons d'un côté, les filles de l'autre ou tous ensemble?
On peut discuter entre amis, filles et garçons. Il n'y a pas de tabou.
Vous auriez envie de dire quoi aux adultes, aux profs, à ceux qui ont des responsabilités? Chacun, chacune, vous leur diriez quoi là sur la sexualité, sur l'avenir des jeunes? Fatoumata, vous auriez envie de dire quoi?
Bon, je demande aux supérieurs de bien nous aider à faire passer le message. Aidez-nous à parler aux enfants, leur dire la vérité. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, de ne pas cacher les choses. Il n'y a plus de sujet tabou. Maintenant, tout ce qu'on veut savoir, on peut le savoir à travers l'Internet.
Kumba, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer personnellement, comme militante et comme maman aussi, comme message?
Le message que je vais passer, c'est aux parents d'abord, de mieux comprendre leurs enfants, de ne pas les repousser, de ne pas donner une mauvaise information, parce que, par exemple, pour moi, lors de mes premières règles, quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit, maintenant, quand tu regardes un garçon rec, tu tombes enceinte. Quand un garçon te touche rec, tu tombes enceinte. Alors que tel n'était pas le cas. Oui. Donc, il faut donner une bonne information, s'approcher de vos enfants, leur expliquer. Il n'y a pas de tabou, parce que maintenant, comme l'a dit tantôt Fatoumata, via l'Internet.
Abdoulaye, un message aux adultes?
Il faut avant tout comprendre les enfants.
Faire preuve de compréhension.
Faire preuve de compréhension, oui.
Et vous, Niaga, pour le mot de la fin?
Moi, je vais demander à l'État d'insérer un programme éducatif à l'école parce que les professeurs sont plus pédagogues. Et ensuite, il faut promouvoir des formateurs pour décentraliser ce que nous sommes en train de faire parce que ça ne se passe pas à Dakar seulement.
Il faut penser au reste du pays. On vous remercie beaucoup pour cet échange. Hein, et à tous, bonne chance dans vos projets, merci. Projets d'études ou projets de famille.
Merci.
Et surtout, prenez soin de vous. On avait donné brièvement la parole en début d'émission à nos invités. On vous retrouve à présent dans Priorité Santé. En tout cas, on a essayé de faire une émission sur la jeunesse qui donne la parole d'abord aux jeunes. On vous retrouve donc, Joe ou Petit Badji, militant actif pour cette cause des droits à la santé sexuelle et reproductive. Alors, ce qui marche, ce sont des actions qui collent aux réalités. Ça veut dire aussi qu'il faut commencer par se faire accepter par les adultes. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Il y a ce problème, bien sûr, de l'accès à la contraception. Pour vous, c'est quoi d'abord? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est un problème d'information ou un problème de peur pour sa réputation?
Je commencerai plutôt par un problème de peur pour sa réputation en ce qui concerne les jeunes du Sénégal et beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés un peu partout en Afrique, parce que la question de la sexualité est toujours tabou. Et avoir même un condom pour une fille dans son sac, waouh, bonjour les dégâts.
Alors justement, cette dimension des générations, réussir à en parler autour de soi sans forcément penser à l'image qu'on va donner de soi-même. Awa Diouf, on a entendu la question de la confiance. Est-ce que du côté des familles, certains adultes vont tenter de freiner vos activités ou finalement ça se passe entre les jeunes et vous et les adultes n'ont pas vraiment grand-chose à y faire?
Au niveau du centre, là où j'étais au niveau de l'université, il n'y avait pas l'implication des adultes parce que c'était un milieu d'étudiants. Et même les relais étaient même des étudiants. Mais une fois en zone rurale, par exemple, mais MSI a mis en place ce qu'on appelle la famille idéale. Donc c'est un genre de jeu, mais qui implique non seulement la belle-mère, le mari, la fille en tant que telle et plusieurs autres personnes. Et ce jeu nous permet, durant ce jeu, non seulement de lever les barrières, c'est-à-dire les sujets tabous, mais aussi de prendre des décisions. Parce qu'à la fin, on se rend compte que ce sont même les beaux-parents qui disent à la jeune fille d'aller faire la planification familiale.
Alors, on voit les obstacles. Hein. Il peut y en avoir vraiment à plusieurs niveaux. Il peut y avoir donc ce monde des adultes. Et dans ce monde des adultes, docteur Senan Odonou, il y a les décideurs, forcément. Quand on travaille pour une agence internationale comme l'UNFPA, on développe des projets concrets, on convainc les citoyens, les responsables. Et puis, le pays. Comment on fait pour travailler, justement, tout en étant accepté, tout pour éviter les conflits, les frictions, éviter, éventuellement, ce serait vraiment dans la version la plus extrême d'être mis à la porte, mais en tout cas, pouvoir travailler dans la communauté.
Il faut prendre le temps de discuter, d'échanger avec les différentes composantes sociales, mais avec les leaders, qu'ils soient des leaders religieux, qu'ils soient des leaders communautaires. Il faut également prendre la peine de discuter, de faire comprendre le contenu même des messages. Cela facilite l'adhésion et l'appropriation des programmes.
On peut aller vers des causeries, vers des échanges, vers d'autres méthodes qui correspondent plus à la réalité. Petit Badji, on a entendu tout à l'heure en première partie d'émission votre franc-parler. Comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas heurter les sensibilités quand on veut faire passer des slogans, parfois des slogans qui frappent, et en même temps ne pas heurter la communauté, ne pas heurter les dignitaires, les chefs de village, les chefs religieux?
Je pense que c'est la partie de la communication la plus compliquée. J'ai demandé aux religieux, mais pourquoi dans vos prêches, pendant les vendredis où tout le monde est là, tous les jeunes sont là, et qu'il y a la cible à côté de vous, pourquoi vous ne voulez pas parler de ces questions? Quand on a posé ça, ils n'ont pas répondu franchement, en fait. Ils n'ont pas voulu dire « Ok, on va le faire ». Mais on a un imam qui s'appelle Imam Moussefal, qui, lui, était très ouvert sur ces questions. Et il a commencé même à nous dire « Écoutez, je vais même faire mes prêches en live sur les réseaux sociaux ». Et ça a commencé à changer la donne. Ça a commencé également à intéresser les jeunes.
Ça veut dire qu'il faut avancer ensemble, justement, sur toutes les questions. On a énuméré tout à l'heure les risques potentiels, hein, ces grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, évidemment le rôle clé des préservatifs pour cela. Quand est-ce que on choisit sa contraception avec beaucoup d'attentes du côté des jeunes filles? Mais on va dire, on l'a souligné tout à l'heure, c'est assez inéquitable en termes de prise de décision, en termes de responsabilité. Et ce sera notre conclusion conclusion, mais c'est un point absolument essentiel. L'amour, c'est à deux. La contraception, c'est aussi à deux. Votre opinion là-dessus, Aïcha ?
Oui, c'est important aussi que les garçons puissent s'impliquer dans le processus de changement de comportement des jeunes. Étant des jeunes, moi, j'utilise des méthodes contraceptives. Mais dès lors que je décide de mener une vie sexuellement active, donc je dois être responsable. Ça a dit quoi ? À deux, c'est une discussion qu'on doit faire à deux.
C'est pour ça que ça peut être aussi très bien à Ouadiouf, quand il y a des consultations de la part d'une sage-femme comme vous, une consultation avec un garçon et une fille qui viennent vous rencontrer.
Oui, en général, chez les jeunes, franchement, s'ils sont mariés, ils viennent ensemble. Là, c'est pas un problème, surtout ici en zone urbaine. Mais aussi, à chaque fois que je parle de zone urbaine, je vais aussi parler de zone rurale. En zone rurale, les jeunes filles, même étant mariées, très jeunes, à 20 ans, avec un enfant, viennent faire la planification familiale, mais en cachette.
Docteur Senan Odonou, on imagine que les grandes organisations internationales, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive, elles pensent s'adresser aux individus en général, malgré tout, dans les faits. Quand on voit y compris la documentation, on voit beaucoup de femmes, on voit beaucoup de jeunes filles, on voit beaucoup de mamans. Est-ce qu'on voit assez de jeunes hommes ? Est-ce qu'on s'adresse de la même manière quand on parle de sexualité et de santé sexuelle aux garçons et aux filles ?
Merci Caroline. Cette question a tout son poids. Dans la sous-région, dans certains pays comme le Ghana, le Nigeria ou d'autres pays, il y a des expériences qui sont faites en mettant en place des clubs de garçons et mettant en place également des clubs de jeunes filles qui facilitent justement ces différentes interactions. J'aimerais aussi ajouter que, étant donné que nous sommes dans une région où le mariage des enfants est une problématique assez importante, On se retrouve confronté à des situations où les jeunes filles sont dans le mariage, mais qu'elles n'ont pas vraiment accès à l'information, ou pour avoir accès à l'information, il leur faut le quitus soit de leur mari, ou soit de leur belle-mère, ou soit d'une autorité communautaire importante. Donc, d'où l'importance également d'associer dans les politiques de sensibilisation, de pouvoir cibler ces gens aussi, pour qu'ils aient la bonne information, parce que même ces catégories de leaders n'ont pas toujours la bonne information.
Le mot de la fin, Petit Badji, informer sur la santé sexuelle, ce n'est pas être contre la famille.
Non, pas du tout. Ce n'est pas être contre la famille. Au Sénégal, nous avons réussi dans la région de Kolda et je pense qu'on va passer à l'échelle à mettre en place un pacte entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et ce programme s'appelle le New Deal. Et ça a permis à plus de 4000 filles d'être enrôlées dans ce programme et aucune d'elles ne sont tombées enceintes. Et on a une dizaine de filles qui sont déjà à l'université. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de parler, le fait de communiquer autour de la sexualité, le fait de donner les vraies informations font des filles ce qu'elles sont aujourd'hui, de véritables leaders qui sont capables de changer et d'être autonomes dans tous les domaines.
Eh bien, on vous remercie, on vous dit bravo. Merci d'avoir participé à cette émission Priorité Santé. Les jeunes s'emparent des questions de santé sexuelle et de contraception. Émission réalisée en partenariat avec le Fonds français Muscoca pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour réalise et prépare votre émission à Dakar, Ophélie Lassène et Richard Rifono, à Paris, Didier Bleu. Lundi, nous nous retrouvons pour la dernière émission enregistrée à Dakar. Nous irons dans la zone de Thiès pour parler de l'impact de la Covid-19 sur la nutrition communautaire et pédiatrique, faire passer les bonnes informations pour préserver l'avenir des enfants, y compris en situation de crise sanitaire. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.